Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Vous savez, c'est l'endroit où on partage un petit peu vos expériences pour comprendre un fait d'actualité. Tiens, les GG, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé cette semaine. Plusieurs interviews notamment. Interview très intéressante, tiens Marc, de David Godu, ton coureur, c'était mardi chez nos confrères de l'équipe. Voilà ce qu'il disait. Quand on a les Français derrière nous, on ne peut pas être battu, mais dans la difficulté, on a tendance en France à être parfois trop dur, parfois un grain de sel et ça part en vrille. Benoît Saint-Denis, le combattant MMA. La barre médiatique est parfois trop haute en parlant de la pression de combattre en France. Les volleyeuses qui ont été battues en quart de finale cette semaine au Mondial, la pointue Iman Ndiaye, l'attention médiatique, dit-elle, nous a mise mal à l'aise. La question que je voulais vous poser, les GG, à travers vos expériences, c'est comment gérer le poids des attentes, justement, la pression médiatique ou même populaire qui s'installe. Entrez dans la discussion avec vos GG au 32-16. Tiens, on va commencer, Fred Le Canut, par toi, justement. La pression des attentes, hein, l'idée du vestiaire, évidemment, c'est aller sur votre expérience personnelle aussi pour comprendre. Comment gérer ça?
Gérer ça, la réponse, c'est prendre du recul. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les attentes, ce sont des histoires qu'on se raconte. Et les gens, en fait, projettent des choses sur l'athlète, projettent des choses sur le champion. Donc, pour moi, si tu veux, je l'ai vécu avec déjà, tu vois, il y a les parents. C'est-à-dire que tu as déjà les attentes des parents, les attentes du professeur, les attentes de l'enseignant. Parce que là, on parle du haut niveau, du très haut niveau. Mais dès le départ, en fait, il y a des gens qui gravitent autour du champion et donc qui ont leur représentation. Et ça commence par là, tu vois, un papa ou une maman qui pousse son enfant pour faire du foot pour gagner de l'argent, ou qui pousse par exemple son enfant à continuer son histoire parce que lui n'a pas été champion, par exemple, tout ça fait partie des attentes des gens qui sont autour. Donc déjà, il faut prendre du recul vis-à-vis de ça, et puis oui, le regard des gens, en fait, tu contenteras jamais les gens. Je te raconte juste une micro anecdote pour rigoler deux secondes. Je te parle de David Douillet, juste avant les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, et David faisait du vélo. Tu sais, parce qu'il se préparait, comme il était lourd sur les appuis, au lieu de quoi, il fait du vélo, il le faisait très bien. Et pour te parler d'attente, voilà l'histoire, il s'éclate juste avant les Jeux. Et nous, en fait, on était les athlètes où on l'accompagnait pour sa préparation. Et on était dans un centre, comme il n'y avait pas énormément de moyens, un centre où il y avait aussi des gens qui étaient là en vacances, mais normal. Et David, en fait, il revient, il a plus de peau sur le dos, il est en double peau, il est blanc comme un linge de souffrance. Nous, on est déjà blanc parce qu'on sait qu'il va devoir rattraper toute la prépa derrière et qu'on va morfler. Il s'assoit à table, puis il n'y a pas un mot, il n'y a pas un bruit, rien. Et il y a un monsieur d'une table de derrière qui le voit, parce que David, il commençait déjà à être connu dans les médias, tu vois. Et il va le voir et il lui met une grande tarte dans le dos. Il lui dit « Alors, ça va, David Douillet ?» Et là, tu vois David qui se décompose de douleur et qui répond pas dans son attitude à l'attente, tu vois, du gars qui était venu pour le féliciter. Et il nous regarde et dit « Eh oh, il est pas très sympa, en fait, David Douillet, tu vois. » C'est ça, en fait, si tu veux, que je veux te dire sur les notions d'attente.
Ah, en fait, t'as un problème dans le dos aussi, c'est pour ça que t'es pas très sympa.
C'est qu'en fait, c'est ça, l'attente. C'est que toi, t'as une représentation, tu le vois dans les médias, tu le dis, et là, et en fait, ça a pas correspondu à son attente, par exemple.
Tiens, David Douillet, le poids, peut-être, l'attente qu'il y a eu pour toi, Fred, on va en reparler dans quelques instants, parce qu'on t'a présenté comme l'après-douille, en tout cas, tu es arrivé après dans la catégorie. Mais Sarah, sur le poids des attentes, dans le tennis, à Roland-Garros, à chaque fois, vous êtes mis un peu sur le feu des projecteurs à fond, il faut gérer. Hein.
Oui, il faut gérer, surtout chez les hommes, hein, parce que ça fait depuis 1983 qu'ils s'attendent. Les joueuses françaises ont gagné d'autres titres du Grand Chelem depuis pour Amélie Mauresmo et Marion Bartoli. Non, le poids des attentes, il est pas évident dans un sport individuel où vous êtes sur une scène qui est le terrain de tennis. Et c'est sûr que Roland Garros, surtout à mon époque, c'était le coup de projecteur. C'est-à-dire que tout le reste de l'année, il n'y avait pas autant de médias, autant de suivi. Donc, si tu veux, t'étais un peu tranquille sur tout le reste de l'année. Et arrive ce tournoi de Roland Garros, qui est un coup de projecteur énorme. Et c'est vrai que, pour un Français, tu veux particulièrement bien jouer parce que t'as de la famille. Tout le reste de l'année, la famille ne te suit pas ou me suivait pas. T'as tous les entraîneurs et tout le staff fédéral qui, effectivement, puisque le centre national d'entraînement se trouve à Roland-Garros, tout le monde est là pour voir les matchs des Français. Plus tout le public qui forcément a envie d'encourager. Donc t'as l'impression d'avoir un sac à dos qui est rempli de cailloux et que ce sac à dos est très lourd à porter. Et au-delà de ça, dans le tennis, c'est ce qui était pour moi très impressionnant, c'est que tu joues sur des terrains où tu as peut-être entre 400 et 3000 personnes. Et pour peu que ton tirage au sort de Grand Chelem te fasse jouer une tête de série, et hop, tu te retrouves sur le cours central ou sur le Suzanne Lenglen et t'as 15 000 personnes.
T'en as souffert, toi? C'est ça, hein?
Ah, la première fois quand je rentre contre Aranxa Sanchez sur le central où j'y avais jamais mis les pieds, et c'est une erreur. C'est-à-dire que je m'entraînais à Roland-Garros tous les jours, je jouais sur les cours annexes tous les jours, mais j'ai pas le souvenir d'être allé m'entraîner sur le central, ce qui est totalement aberrant, même si les dimensions du cours sont les mêmes, le visuel est différent.
Ça change beaucoup, on se rend pas compte, nous, Sarah, par rapport à ça.
Ça change énormément, et ça change énormément parce que tes repères de placement, comme le cours est beaucoup plus grand, t'as l'impression que t'as plus de surface à courir, tu peux te mettre plus loin. Les yeux, c'est très important au tennis puisque tu dois capter les distances. Et là, tu te retrouves perdu sur ce grand court avec 15 000 personnes. Alors que d'habitude, tu joues devant 2 ou 3 000 personnes. Je rentre sur le central de l'US Open face à Martina Hingis. Moi, j'y avais jamais mis les pieds aussi. Donc forcément, les 2-3 premiers jeux, mais t'es pas dedans, donc t'as déjà perdu les 3 premiers jeux. Donc quand tu joues les numéros 1 mondial de leur discipline, la montagne est quasiment insurmontable. Mais Roland Garros représente quelque chose de particulier pour un Français qui veut bien jouer. Donc
tu dormais pas bien, toi, à Roland Garros.
Tu dors pas bien, et deux, tu joues pas ton meilleur tennis. Et mon dernier Roland-Garros, je vous raconte la petite anecdote, le tirage au sort, donc je sais que je vais arrêter à la fin de l'année, je tire Serena Williams, donc je sais que je vais avoir un grand cours, et donc c'est le Suzanne Lenglen, et je joue dernier match de la journée. Mais qu'est-ce qu'elle est longue cette journée, tu l'as joué 10 fois ton match, et j'étais chez moi, je tournais en rond, je faisais le ménage, je lavais les carreaux, j'essayais de m'occuper pour pas...
Ah, tu viens d'enlever du glamour quand même. Hein.
Eh ben ouais, je lavais mes vitres, j'étais là, j'essayais de pas regarder les matchs de la journée, je voulais pas aller au stade à 11h ou midi, je suis rentrée sur le court, il était 18h, j'ai fini, il était 22h à la tombée de la nuit. Donc le poids des attentes, t'as la victoire, mais t'as aussi, quand tu joues Williams, c'est pas être ridicule.
Comment gérer le poids des attentes? C'est le vestiaire des grandes gueules du sport, Fred.
Bah alors, les attentes, moi je vois à peu près ce que c'est, parce que quand je suis arrivé, j'étais le premier garçon de plus de 2m10, qui pouvait courir, sauter, avait des bonnes mains et comprenait à peu près le basket. Donc forcément tout le monde m'est tombé dessus parce que on avait vraiment, alors on se rend pas compte maintenant parce que maintenant on a plein de grands en équipe de France, sauf qu'à l'époque on n'en avait pas. Et donc on se disait, bah, les équipes qui gagnent ont un pivot de cette envergure. Maintenant c'est notre pivot, c'est notre go-to guy, ce joueur qui va nous montrer les choses. On m'a même surnommé The Answer. Pour te dire,
la réponse,
parce que justement on avait besoin de ce genre de choses. Et on m'a mis une pression folle tout le temps. En fait, quoi que je fasse, je n'arrivais pas à répondre aux attentes. Je me rappelle d'un petit événement. En 2001, je fais l'Euro de basket. Je me casse la main juste avant. Donc, je n'ai pas de préparation. J'arrive. Mes premiers matchs de préparation, c'est le premier match de l'Euro. Et donc, l'Euro, évidemment, se passe mal parce que sans préparation, t'arrives, c'est un petit peu compliqué. Et donc, à la fin, je prends ma retraite et on me rappelle 4 ans après en me disant, Fred, il faut que tu reviennes. Et là, je reviens et je me pose dans la conférence de presse et je regarde tout le monde et je dis, je vais me donner à fond, mais le premier qui critique ma façon de jouer ou qui a un problème avec le fait que je sois motivé ou pas, il va en prendre une. Et là, les journalistes me regardent en disant, mais Fred, t'es devenu complètement fou. Non. En fait, j'étais pas devenu fou. C'est que j'en avais marre que on me reproche des choses que eux imaginaient. Et ma vie a changé le jour où j'ai compris que les attentes, c'est moi qui devais les fixer. C'est-à-dire que moi, je m'en foutais des attentes des autres. Toi, tu peux espérer que je sois Shaquille O'Neal, je ne serai jamais Shaquille O'Neal. Mais par contre, moi, j'ai des attentes. Et à partir du moment où j'ai décidé que les attentes, c'est moi qui les ai fixées, ma vie a changé, je me suis senti beaucoup mieux. Et je m'en foutais de ce que disaient les autres, qui ne comprenaient pour la plupart rien au basket.
Marc, Madieu, la gestion des attentes.
La gestion des attentes, à titre personnel, par rapport à ma propre carrière, moi, je le gérais d'une façon très simple. Par rapport à un objectif, je me conditionnais et je me mettais dans un compte à rebours. C'est-à-dire que pour moi, je devais remplir des cases d'entraînement, d'hygiène de vie, de nutrition, etc., etc. Moi, je me focalisais beaucoup sur mon temps de préparation. C'est-à-dire que tous les ingrédients que je devais réunir pour être performant, il fallait que je les coche en amont de la compétition. Moi, l'objectif, c'est ça. C'était de me dire, quel que soit le résultat qu'il y aura derrière, et quelle que soit la situation que je vais rencontrer, il faut qu'à la sortie de ma compétition, je n'ai pas de regrets. C'est-à-dire que si je suis en situation de pouvoir gagner sur une course, un Paris-Roubaix, un championnat de France, ou une étape du Tour de France, ou n'importe quelle autre épreuve, il fallait que j'ai rempli les cases et que j'ai rempli mon cahier des charges en amont. À partir du moment où j'avais rempli mon cahier des charges en amont, j'arrivais avec des certitudes, j'arrivais avec de la confiance, et après le reste, je montais en agressivité dans ma bulle. C'est-à-dire que je devenais quelqu'un d'agressif, je pouvais être limite méchant par rapport à l'entourage extérieur. Tout ça pour me protéger et pour me conditionner par rapport à la course que j'allais avoir à effectuer. Si j'avais réussi ça, tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur, dans le journal, à la télé, à la radio, bon, à mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce qui était quand même une bonne et belle chose, j'étais conditionné par rapport à l'événement et je n'étais pas mis en difficulté par rapport aux attentes.
Mais les attentes, c'est les tiennes. Je pense que pour tous c'est à peu près la même chose. C'est le jour où on a compris que les attentes c'était les notes qu'il fallait fixer et pas écouter ce que disaient les autres qui ne pouvaient pas nous connaître et qui avaient peut-être des attentes déplacées par rapport à nous, qu'on a commencé à mieux vivre et qu'on
et
on l'a
mieux surtout,
j'imagine.
C'est de se mettre en situation, c'est-à-dire que à partir du moment où j'avais fait tout ce que je devais faire et ce que j'avais à faire pour être prêt pour l'événement, ben j'ai envie de dire, j'arrivais avec des certitudes et des assurances, même si j'avais l'appréhension de la compétition, mais c'est l'agressivité qui venait s'installer. Et à partir de là, ça déroulait.
Marc, par rapport à Thibaut Pinot, la pression qu'il a pu vivre, comment tu as pu l'aider par rapport à ça? Tu as pu lui...
En allant sur le chemin que je viens de t'évoquer, c'est-à-dire, fais ton travail avant, fais ta préparation... remplis toutes les cases de l'échiquier pour pouvoir être performant. Une fois que tu as fait ça et que tu arrives en compétition, la vie ne dépend pas que de toi. Tu es dans un peloton. On n'est pas comme dans... Par exemple, il y a des différences entre tous les sports. Quand tu fais du 100 mètres, tu fais un 100 mètres, tu es dans ton couloir, tu récites ton 100 mètres. Quand tu es dans un peloton où tu as 180 coureurs, tu récites pas ta propre partition. Tu dépends des autres. Tu dépends du comportement et du positionnement et de l'attitude et du niveau de compétitivité que vont avoir les 179 autres coureurs. Donc tu es obligé d'intégrer la situation de la course et du peloton. Mais à partir du moment où tu arrives à te concentrer uniquement là-dessus et seulement là-dessus, tu peux être performant si tu as rempli toutes les cases. Pour moi, l'important, la clé de voûte de toute performance et de toute réussite sportive, c'est d'avoir rempli toutes les cases et tout le cahier des charges en amont.
Comment
si tu as fait ça, après, c'est la vie, c'est le destin.
Le poids des attentes, on est dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur RMC. Toi, on t'a présenté Fred, le canu, comme celui qui est arrivé après David Douillet. Hein. Donc, il faut gérer avec ça. Non, on parlait de l'après Bernard Hinault sur le Tour de France.
Le problème, c'est le même problème
bien
que tennis.
Comme au tennis.
On n'a pas gagné le Tour depuis 85.
Non, mais toi, tu l'as vécu dans ton corps.
C'est pour ça que pour aller dans cette histoire-là, je rebondis sur ce que vient de dire Marc, tu as dit la vie, c'est le destin. La vie vitale, mais la vie, L'apostrophe, AVIS, la vie des autres aussi, c'est leur destin en fait à eux. Et ce que tu viens de dire, c'est ça. Moi pourquoi on m'a dit futur David Douillet? Tout simplement parce que la PQR, tu sais, la presse quotidienne régionale, elle aime bien quand tu es régional. Et moi, j'ai grandi à une heure de route de chez David Douillet, à 10 ans d'écart. Donc le petit Normand, forcément, futur Douillet, etc.
Les mêmes traces.
Et pour te raconter l'anecdote, si tu veux, c'est que quand David a arrêté sa carrière, alors déjà, il y avait un journaliste du Figaro qui est venu nous voir le jour où il part à Sydney. Il nous dit alors, parce que nous on était ses partenaires, il dit c'est le jour le plus triste de votre vie, il arrête sa carrière. Déjà, j'ai compris qu'on n'était pas dans le même monde. Moi, c'était le jour le plus heureux que Douillet arrête, tu vois, qu'on arrête de chuter sur Douillet, c'était le plus grand moment de ma carrière. Donc, on n'avait pas la même vision. Et après, ce qui était énorme, c'est quand David il arrête, on part à Oulgat, qui est pour nous un endroit mythique parce que toutes les préparations mondiales et olympiques sont faites là-bas, beaucoup en tout cas. Et c'est le premier où David n'est pas athlète à Oulgat, en Normandie. Et donc, il y a une équipe de tournage qui vient et qui demande à suivre les poids lourds. Alors nous, on est super fiers, on appelle nos mamans, tu vois, on dit voilà, on va passer à la télé, tout ça, c'est extraordinaire, on va parler de l'après Douillet. Et donc, il y avait Mathieu Bataille, Pierre Robin et moi. Et le reportage, ça a été David Douillet, virgule, et demain, le désert. Et si tu veux.
Il y avait moins de pression, du coup.
Ouais, nous, on
croyait. D'un certain côté, c'est mieux, peut-être, non?
Écoute, tu sais quoi, c'est là qu'il y a eu rupture. Parce que après, j'ai dit, on aurait dû prendre du dessert plutôt que du désert, tu vois, on est parti sur autre chose. Mais ce que je veux te dire, c'est ce que tu dis, Marc, c'est le plus grand sujet, la plus grande réponse à la question de la thématique du regard extérieur, c'est que le malheur, c'est l'externalisation. On a dit, on m'a dit, on m'a dit dans les médias, on a dit deux mois de ça, on a pensé ça. Le on, ça rend malheureux. Par contre, toi, à chaque fois, Marc, que tu as parlé sur les projets pour améliorer, ou toi, ou les personnes que tu as coachées, tu as dit, je dois faire, je dois mettre en place.
Fred, tu crois que c'est possible maintenant?
L'internalisation.
Avec les réseaux sociaux, avec le fait que tu sois sans arrêt confronté à ce jugement.
Eh ben, c'est vital parce que je vais te prendre un autre exemple de décalage. Pour ouvrir un petit peu le débat en dehors du monde du sport et donner aussi des tips aux gens qui nous écoutent. Moi, ce qui m'a servi dans cette histoire où on me disait le douillet de demain et que j'ai jamais été déjà le canu d'aujourd'hui en temps de perdre de palmarès. Tu le sais, Fred, moi j'ai perdu 50 kilos. T'as exposé une partie de ta vie personnelle. Moi, j'expose la mienne. J'ai perdu 50 kilos. On m'a dit, je peux plus te parler. Parce que les gens avaient l'impression que j'étais malade. C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois qui ont dû couper la rupture avec moi parce que ils étaient en désaccord avec leur vision sur leur perception de moi. Et c'est parce que j'ai compris qu'en fait on en avait rien à foutre de ce que pensent les gens que j'ai décidé d'être heureux. Et c'est ce que tu dis, Marc. Les projets de vie, c'est les mêmes dans la vie de tous les jours. L'avis des gens autour, il est important de ceux qui t'aiment.
T'es pas jugé, Fred. Je suis d'accord avec toi. Et effectivement, l'athlète est aussi un homme.
Comment gérer le poids des attentes?
Mais à un moment, faut quand même se poser la question de se dire qu'un athlète est sous les feux des projecteurs. Tu vis pas exactement la même chose. C'est-à-dire que t'es jugé effectivement toute ta vie courante, sauf que quand tu es athlète, t'es jugé par 50 000, 100 000, 200 000.
Mais quand les gens que tu aimes te disent une chose qui te plaît pas, c'est autant de poids que les médias, non, en fait.
Évidemment. Sauf qu'il faut faire le tri.
Moi, il y a un autre truc que je dis souvent aux coureurs en plaisantant à demi. C'est arrêter de raconter votre vie sur les réseaux sociaux. Arrêtez de voir raconter vos entraînements. Je disais souvent à Thibaut Pinot, il mettait ses sorties d'entraînement sur Strava. Mais je dis, mais les mecs, vous êtes cons. Pourquoi vous racontez votre vie? Pourquoi vous donnez de l'information à la concurrence? Je dis, moi, si j'étais coureur aujourd'hui, je serais pas sur les réseaux sociaux. Personne ne saurait ce que je fais à l'entraînement. Personne. Quand on commence à donner ces informations sur sa propre vie, on se met en situation ou d'être contesté, ou d'être caricaturé. Ne donnez rien! Ne donnez rien! Si on donne rien, on va pas venir t'emmerder sur les réseaux sociaux.
Mais tu sais très bien. Alors, sur le principe, je veux pas te donner tort. Évidemment que moi tu donnes, moi tu te fais emmerder. Ben voilà. Sauf qu'on est dans cette génération-là
et
où
tu
as besoin.
Ta oui, mais alors, je vais vous donner un autre exemple.
Résultat, tu protèges.
Mais c'est
tu protèges
aussi
ta préparation. T'es pas obligé de donner à la terre entière les entraînements que tu fais, les intensités que tu fais.
Sinon, tu génères encore plus d'attente, peut-être.
Tu génères de l'attente, mais aussi tu donnes de l'information à la concurrence.
Sarah.
On peut prendre l'exemple d'un certain Léon Marchand qui, après les Jeux de Tokyo, a produit, ou en tout cas il y avait une certaine attente en vue de ces Jeux de 2024. Alors lui, il avait la chance d'être à distance, mais tout ce qu'on projetait sur lui, forcément à un moment ou un autre, ça lui revenait aux oreilles. Et je pense que vous avez comme moi tous lu ses déclarations ou son préparateur mental qui a expliqué comment pendant deux ans, enfin pendant les trois ans qui ont séparé Tokyo 2021 et Paris 2024 avec ce décalage des Jeux, comment il s'est préparé à être sous les feux de l'actualité, ou en tout cas de devenir une méga star de la natation. Et je me souviens d'une phrase qui avait été dans un article fait par son préparateur mental qui disait à Léon Marchand: prépare-toi, comment tu veux que ta vie change ou ne change pas après que tu deviennes champion olympique, en fait. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Et pendant quasiment trois ans, même à 10 000 kilomètres de la France, là où il s'entraînait aux États-Unis, en fait, il s'est préparé aux attentes que pourrait procurer le fait qu'il devienne le plus grand de tous les grands.
Oui, mais là où c'est intéressant aussi, Sarah.
Et ça, c'est intéressant de se préparer aussi.
Il s'est préparé, mais aussi partir à l'étranger. Et on va conclure
à ça. Oui, il s'est extrait d'une forme d'attente pesante.
Toi, tu as joué en Espagne, Fred, et c'est la pression, tu t'échappes un peu de la pression aussi, évidemment, quand tu es plus en France.
C'est merveilleux, parce qu'il y a moins d'attente. Tu n'étais pas quelqu'un du pays, donc il y a forcément moins d'attente. Tu passes un peu inaperçu, parce que l'Espagne, c'est bien que ce soit proche, c'est assez loin. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à revivre aussi grâce à l'Espagne, parce que j'avais des gens j'avais un club de fans là-bas, j'avais la presse qui parlait toujours très correctement de moi. Et c'est vrai qu'en France, on a cette tendance à brûler ses idoles aussi. Donc quand t'es au top, ça va, mais on aime bien te critiquer et te rabaisser au maximum.
Un dernier mot,
c'est très simple. C'est plus facile d'être un coureur cycliste français dans une équipe étrangère que d'être un coureur français dans une équipe française. Ça, c'est une évidence. Il suffit de regarder l'actualité de notre sport pour s'en rendre compte.
Comment gérer le poids des attentes? On ferme la porte du vestiaire. C'était passionnant de vous écouter. On